bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle de conférences sur le 19e siècle. Alors, je dois vous avouer que personnellement, j'ai toujours eu un petit problème avec le 19e siècle, qui est vraiment le siècle où je ne me plais pas, et j'espère vraiment que à la fin de ce cycle, je verrai cette époque de manière beaucoup plus motivante et intéressante. Alors, quelques petites données pratiques avant de vous présenter notre intervenant du jour. Les conférences de l'année passée sont accessibles depuis à peu près une semaine sur le cycle de UFM. Il y a un petit onglet conférences, vous pourrez les écouter en ligne. Elles seront à partir du 15 octobre également, vous aurez aussi accès aux films, je crois dans ce cas sur le site de l'extension. Alors, je dois vous signaler un colloque dont les informations sont là-bas sur l'athéisme dévoilé au temps moderne. Je dois vous signaler aussi que le livre tiré des cycles du cycle de conférences de l'an passé sur le 18e siècle est paru aujourd'hui même et qu'il est en vente à l'entrée, donc ça sera sans doute pas la fois prochaine, à 5€. Et puis, je vais céder la parole à Vianney Forgeois du Manège, 2 minutes pour qu'il vous explique une collaboration que nous faisons notamment avec la conférence prochaine.
Merci Anne. Donc voilà, en fait, je vais être assez bref. On s'est rendu compte cette année qu'au Manège, il y avait plusieurs spectacles qui ont une thématique commune avec les conférences qui vous sont proposées cette année. Il y en a deux notamment, 2 spectacles et 2 conférences. Le premier spectacle est en lien avec la conférence du 15 octobre, et c'est un spectacle qui s'intitule Ghost Road. Le metteur en scène, Fabrice Murgeac, qui est l'un des plus prometteurs metteurs en scène belges, c'est pas moi qui le dis, c'est la presse qui le dit tout simplement, a décidé de s'intéresser à ces villes qui sont maintenant fantômes, mais qui autrefois ont été le fer de lance d'une économie, de la croissance, et qui ont permis à notre société de se développer, de croître et de devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et il s'est intéressé à travers le portrait d'une dame, notamment, à ces gens qui ont donné un peu de leur sang, de leur temps, à ces industries qui ont été le fer de lance d'un temps et qui maintenant sont abandonnées. Ici, dans le spectacle Ghost Road, ce sera au mois de novembre, il s'intéresse plus particulièrement à la Route 66, donc la fameuse Route 66 aux États-Unis, qui maintenant est une route quasiment déserte. Et un autre spectacle, donc ça c'est en lien avec l'autre cycle, mais je vais juste te présenter très brièvement, ce sera Blé Propaganda. Donc là on est plus dans l'information et la propagande, mais je le présenterai la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et une bonne rentrée.
Alors, pour nous parler, pour faire aujourd'hui la transition avec le cycle sur le 18e de l'an passé, et nous parler de cette longue durée de 1789, un historien de l'Université de Liège, professeur à l'Université de Liège, Philippe Rapson, qui est également chercheur qualifié honoraire au FNRS, il s'intéresse avant tout au processus de la mémoire. Il avait déjà fait sa thèse sur la mémoire de la Révolution française en Belgique. Il travaille, toutes ses publications s'intéressent beaucoup à l'histoire et à la mémoire, aussi bien à partir de la Révolution française que jusqu'à la Shoah. Il enseigne l'histoire des conceptions et des méthodes de l'histoire, l'histoire contemporaine et la critique historique. Il était l'un des 4 experts de la commission d'enquête parlementaire Lumumba, dont il a tiré un ouvrage, et aussi le concepteur historiographique de l'exposition permanente des territoires de la mémoire. Et puis, il est membre de la commission scientifique du comité mémoire et démocratie du Parlement wallon, et il met maintenant sur pied un centre de recherche et d'études sur la transition la transmission de la mémoire. Je lui cède immédiatement la parole.
Merci Madame Staquet, merci de votre présence, parce que c'est une douce soirée d'automne qui s'annonce. Douce soirée d'automne, et au fond, nous allons entrer dans un siècle que nous espérons présenter de manière telle qu'il suscitera l'intérêt désormais de Madame Staquet. En l'occurrence, en évoquant l'ère des révolutions sur une longue durée. Et à partir du moment où on met le focus sur un événement ou plusieurs événements et qu'on les inscrit dans une perspective de longue durée, ça veut dire qu'on ouvre la voie à l'histoire en ce qui concerne les événements et à la mémoire, on vient d'évoquer mon goût pour la chose, et à la mémoire, c'est-à-dire à la manière dont chaque génération réinvestit un événement du passé. Chaque génération le réinvestit pour des raisons particulières et la somme de ces réinvestissements, génération après génération, constitue un héritage ou des héritages. Et avec en particulier la Révolution française de 1789 chez nous, il y a là un épisode de l'histoire extrêmement riche d'un point de vue mémoriel qui a donné lieu à un foisonnement en matière d'imaginaire, et pas seulement en France, et pas seulement dans le pourtour de la France comme chez nous, mais bien au-delà, je dirais dans l'espace mondial, comme en témoigne d'ailleurs au demeurant le bicentenaire de la Révolution en 1989. Année particulière, année clin d'œil, l'année de la chute du mur de Berlin, l'année de la Révolution roumaine aussi, l'année de la place Tiananmen avec des étudiants chinois brandissant à un moment donné 1789-1989 à Pékin. La Marseillaise est un chant traduit dans plus de 160 langues. Pourquoi un tel engouement au niveau mondial? Pourquoi ce chant a-t-il finalement répercuté les ambitions de liberté, les espérances de liberté de nombreux peuples, de nombreuses communautés à travers le monde? La Révolution française, qui est un événement qui est segmenté dans le temps, qui constitue un épisode relativement lointain, deux siècles, très proche par la mémoire, la Révolution française est un des rares épisodes de l'histoire contemporaine, donc qui commence en 1789, qui a atteint ce statut et cette puissance mémorielle. On a détruit les statues de Lénine et de Staline il y a quelques années, la statue de Danton n'a jamais été détruite à Paris. Alors, ça n'est pas seulement la Révolution française qui sera, je dirais, le centre de notre intérêt ce soir, mais au fond, l'ère des révolutions. L'ère des révolutions, pour mieux connecter également un phénomène plus large que la Révolution française, à un XIXe siècle extrêmement riche et qui contient un certain nombre d'enjeux dont les répercussions sont encore, à mon avis, manifestes aujourd'hui. Alors, en guise de préalable, et puis après cette introduction, nous entrerons dans le vif du sujet, en guise de préalable, je voudrais amener une réflexion sur la prudence utile et nécessaire dans la relation entre l'histoire et la mémoire, car au fond, l'histoire est cette discipline qui fait naître une connaissance du passé, fragmentaire, évidemment. La mémoire, elle fait appel également, parce qu'elle fait remonter le passé vers le présent ou un présent, elle fait appel ou elle risque, potentiellement elle fait appel à, je dirais, une démarche différente de la démarche purement historienne. Pour faire bref, on peut dire que quand on produit une connaissance historique, on va s'intéresser à la singularité d'un événement, partant du principe que tout événement est singulier en réalité. Et pour produire cette singularité de l'événement, il faut s'appliquer à une démarche qui met en avant, qui met en exergue, qui met en fonctionnement l'esprit rationnel, l'esprit cartésien. La démarche mémorielle a une tendance à souscrire à une autre manière de procéder qui fait plutôt appel à l'esprit, non pas rationnel et cartésien, mais l'esprit analogique. C'est-à-dire la comparaison entre des événements du présent et du passé. Et quelle est la différence entre l'esprit cartésien et l'esprit analogique, pour faire très bref? Eh bien, l'esprit analogique va considérer que si le tournesol s'appelle comme cela, c'est parce qu'il ressemble au soleil et que donc il a, d'une certaine manière, des vertus solaires. L'esprit cartésien va considérer que, d'abord, le soleil est un astre et le tournesol est une plante. Autrement dit, l'esprit cartésien va mettre en exergue les différences avant, éventuellement, d'évoquer les ressemblances, tandis que l'esprit analogique mettra en exergue les ressemblances avant de souligner les différences entre les phénomènes. Ce sont des démarches intellectuelles différentes qui font appel à des procédures différentes. Et on peut avoir déjà à l'esprit que la problématique de la mémoire et donc de la longue durée d'un événement est une problématique qui va nécessairement être nourrie par l'esprit de comparaison, par l'esprit de ressemblance. Et avec les révolutions, la tentation est toujours très grande de le faire. Avec les révolutions, et on le verra en particulier pendant la Première Guerre mondiale et la révolution bolchevique, il y a très vite des foyers de comparaison qui voient le jour, des exercices d'analogie, et ces exercices d'analogie vont véritablement faire partie du patrimoine culturel d'une génération, du patrimoine d'une génération dans ce relation au passé, au présent et à l'avenir. C'est pourquoi nous allons faire un voyage, si je puis dire, dans le temps, mais avec des sortes d'allers-retours dans les présents, et il faudra adopter, si je puis dire, cette souplesse pour ne pas déraper sur le chemin. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, qualifions ce qu'on appelle l'ère des révolutions dans le titre. Il y a un phénomène qui est étonnant et qui évidemment a été abondamment traité, un phénomène qui consiste à constater qu'entre les années 1770 et les années 1830, voire 1848, c'est-à-dire simplement une vie d'homme, 1770-1830, c'est 60 ans. Pendant cette tranche chronologique, des phénomènes révolutionnaires à répétition ont lieu qui ne se situent pas seulement en Europe, mais bien au-delà. Et un historien qui s'appelle Jacques Gottschaux, un grand historien de la Révolution française, a même qualifié ces phénomènes de révolution atlantique. Révolution atlantique, dans la mesure où les espaces concernés par ces phénomènes révolutionnaires avaient peu ou prou, à la louche, quelque chose à voir avec l'espace atlantique. Et évidemment, il faisait référence à la révolution d'indépendance américaine, avec la rébellion, l'insurrection des colonies et la fondation de la République des États-Unis. Un phénomène qui n'est pas sans écho, qui n'est pas sans effet sur la quête identitaire des peuples d'Amérique latine, qui vont se soulever contre la mère patrie espagnole, contre Madrid, ou aussi contre le Portugal, l'ère des Libertadores se nourrira de l'influence de la révolution américaine. Donc c'est tout un continent entier qui est secoué par une vague révolutionnaire, décolonisatrice, si je puis dire, et bien entendu, en Europe, la Révolution française est l'événement phare de cette séquence, mais il ne faut pas oublier des foyers révolutionnaires ailleurs, et en particulier chez nous, avec la Révolution brabançonne, qui est très particulière, avec la Révolution liégeoise, avec d'autres révolutions en Europe. Bref, il y a ce phénomène, je dirais, qui dépasse, qui transcende un océan, et qui met aussi en commun des épisodes historiques, dans la mesure où le point de reconnaissance de ces phénomènes, c'est l'idée qu'on peut conduire les hommes, c'est l'idée qu'on peut établir des États, qu'on peut diriger les nations, non pas par la peur, non pas par la terreur, non pas par un dieu, mais par des mots, par une constitution. Il y a une vague de constitutionnalisme qui est liée à une volonté nationale, je vais revenir sur ce point-là dans un instant, qui est un phénomène tout à fait perceptible et tellement perceptible et concret, qu'au fond, il marque la différence dans notre historiographie, c'est toujours une question de perception, il marque la différence entre l'histoire moderne et l'histoire contemporaine, même si les anglo-saxons n'ont pas la même césure, ils n'ont pas 1789 comme césure entre deux époques. Cette séquence chronologique d'ère des révolutions, révolution atlantique, inaugure, en somme, l'histoire contemporaine, et cette inauguration se fait dans le cadre d'une rénovation, très souvent en profondeur, des sociétés concernées, avec des objectifs qui sont précis, l'établissement de constitutions. Constitutions qui doivent être à la base d'une législation, qui doivent être à la base d'une séparation des pouvoirs, d'un nouveau modèle de société où la liberté, plutôt les libertés, sont véritablement au cœur de la nouvelle problématique sociopolitique. Les libertés et l'égalité des droits. Et on ne va pas passer en revue chaque épisode révolutionnaire, j'essaye ici d'évoluer dans une synthèse. L'égalité des droits, elle est clairement portée, revendiquée par la Révolution, avec le principe de base, le simple fait de naître donne des droits à un être humain. Alors, nous nous arrêtons quand même un petit peu à l'époque de la Révolution française. Nous allons un peu nous arrêter sur elle parce qu'elle est quand même notre référence, notre canevas dans la réflexion. Il y a un caractère de proximité également. La Révolution française, sans refaire tout son historique, elle a pour point de départ un problème pour la France qui est un problème financier catastrophique. L'inégalité des impôts fait que ce pays est perpétuellement ruiné et que la convocation des États généraux par Louis XVI dès 1788 pour mai 1789 est censée apporter des remèdes à la crise fiscale et financière de la France. Dans une société profondément inégalitaire en la matière, puisque les impôts étaient très mal répartis, nobles et clergés ne payant pas d'impôts, constituant un secteur privilégié de la société, ce sont des choses qui sont connues. Ce qui est intéressant de constater, c'est que entre la convocation des États généraux et l'ouverture de ces États généraux en mai 1789, il se passe plusieurs mois, durant lesquels il y a des campagnes électorales, une campagne électorale où en particulier les futurs députés du tiers-État se font élire. Or, il se produit un phénomène qui est la mise sur papier de revendications très diverses et très variées dans le cadre des cahiers de doléances, les fameux cahiers de doléances qui sont dans tous les manuels d'histoire et qui peuvent être écrits par des corporations, par des communautés villageoises, donc qui sont à angle variable, si je puis dire. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si on rassemble ces cahiers de doléances, si on les rassemble et qu'on les étudie, on constate qu'il y a un faisceau de revendications communes, je dirais, de la part d'entités ou de collectivités qui auraient pu formuler d'autres revendications. Il y a un certain nombre de revendications communes fondamentales, comme l'égalité devant l'impôt, comme la liberté de la presse, qui, qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de la France, donne une sorte de cohérence dans ces manifestations revendicatives. Et qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Ça veut dire que ces cahiers de doléances ont donné, si je puis dire, une sorte de cartographie politique ou de cartographie idéologique de ce qu'il convient d'appeler l'opinion publique. Les députés du tiers-État ne se sont pas trompés. Ils ont eu par ce biais, et je dirais presque sans le savoir, une véritable enquête sociologique de grande envergure avec l'énumération de griefs qui allaient nourrir leur discours politique et leur donner une certaine confiance par rapport à ceux contre lesquels ils allaient devoir s'affronter. Au demeurant, ça n'était pas l'opinion publique qu'on désignait à cette époque-là sous ce vocable, c'était l'esprit public. l'esprit public est en marche dès avant la Révolution française. Et c'est un élément important parce qu'il va façonner non seulement la posture des députés du tiers, leur audace, mais aussi la signification qu'ils vont donner à leur action. Alors leur action, elle débute lorsqu'ils décident de quitter les États généraux, puisque le mode de fonctionnement qui est établi est le vote par ordre, ce qui empêche le tiers-État, je dirais, de s'imposer, car les deux ordres privilégiés sont en perpétuelle alliance, le tiers-État réclamant le vote par tête, au nom, justement, du fort pourcentage de Français qu'ils sont censés et qu'ils, effectivement, représentent. Alors, l'acte décisif de la Révolution, c'est lorsque ces députés du tiers-État quittent les États généraux. Nous sommes dans l'Ancien Régime, le rituel est important. Ils s'en vont physiquement de la salle des débats pour trouver un lieu qui deviendra l'Assemblée nationale. Ils font donc une Assemblée nationale en faisant le serment de ne pas se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. C'est l'acte de la Révolution française. Et la Révolution est presque consommée lorsque Louis XVI ne fait pas intervenir la force armée pour dissiper cette assemblée. Les députés du tiers n'avaient rien de rebelles combattants, c'était de bons bourgeois. Mais cette espèce de non-force, si je puis dire, ne va pas conduire Louis XVI à engager une vraie force. Et d'une certaine manière, il signe son arrêt de mort. Alors, je suis obligé de sauter beaucoup d'étapes. Je voulais ici souligner que cette assemblée qui se dit à ce moment-là nationale va enclencher un mécanisme qui est assez bien connu de refonte de l'Ancien Régime. Donc, pendant l'été 1789, deux choses se passent en même temps. D'une part, la destruction de l'Ancien Régime, avec notamment une limitation toujours plus grande des pouvoirs du roi, je n'insiste pas là-dessus, avec une refonte des institutions administratives, judiciaires, des impôts, avec une attaque frontale contre l'Église catholique, et en même temps, la nouvelle société, la nouvelle constitution, les travaux la concernant sont engagés, bien entendu, avec deux moments phares de ce processus, le 4 août pour le volet destruction, l'abolition des privilèges, et le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est l'amorce, la charpente idéologique du nouveau régime. Alors, la déclaration des droits de l'homme est sans doute l'élément de la Révolution française qui a conservé une vigueur, je dirais, mémorielle dans les imaginaires tout à fait considérable. La France n'invente pas nécessairement les droits de l'homme. Il y a d'autres références possibles, il y a un passif en la matière, que ce soit philosophique ou politique. Néanmoins, il est très clair que l'épisode de la déclaration de 1789 est un des éléments nutritifs très importants de la Déclaration universelle des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale, et d'une certaine manière, un certain nombre de nos références aujourd'hui, des valeurs auxquelles nous apportons de l'importance, qu'on soit jeune ou vieux, eh bien, sont un héritage direct de cette déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors, ce n'est pas du tout un texte, je dirais, rédigé par des gens qui seraient des naïfs. Les rédacteurs de la déclaration de 1789 sont tout sauf des naïfs. Ce sont des gens qui sont idéologiquement extrêmement aiguisés, qui incarnent une bourgeoisie libérale tout à fait consciente des risques qu'elle prend. Et tout est construit pour à la fois, je dirais, mettre en valeur quatre piliers sur lesquels je vais revenir, mais aussi pour faire en sorte qu'un certain nombre de limites soient posées par le législateur, qui en définitive est le véritable contrôleur de la Déclaration des droits de l'homme, avec la sécurité que le législateur doit sa fonction parce qu'il est un représentant de la nation. Les quatre piliers, ce sont les libertés publiques, l'égalité des droits, la propriété et la sûreté. Sûreté et aussi droit à la révolte, droit à la lutte contre l'oppression si le gouvernement violait la Constitution, violait les institutions. Alors, ce qui est intéressant dans cette perspective, c'est qu'en érigeant une Assemblée nationale, en défendant le modèle de souveraineté nationale, en travaillant à l'élaboration d'une constitution qui deviendra celle de septembre 1791, ces députés du tiers, avec des membres de la noblesse et du clergé qui les ont rejoints, sont très cohérents. Et la première, le premier coup de canif, si je puis dire, dans cette cohérence, c'est lorsque se pose la question de savoir qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce qu'une nation ? C'est-à-dire, qui constitue une nation ? C'est-à-dire, qui envoie des représentants à l'Assemblée nationale ? C'est une logique élémentaire. C'est le premier vrai débat de fond qui va opposer les révolutionnaires de 89 entre eux. Sur la définition de la nation, donc aussi de la définition de l'électeur. Bien sûr, il y a une sorte d'unanimité implicite pour écarter la moitié du genre humain, les femmes. Maintenant, les hommes. Alors là, il y a deux tendances. Une minoritaire, une majoritaire. La tendance majoritaire considère que, pour être électeur, il faut avoir un intérêt dans la chose publique. Et pour être vraiment intéressé à la chose publique, il faut avoir quelque chose à perdre. Et qu'est-ce qu'on peut perdre ? Je schématise très fort. C'est sa propriété. Donc seuls les propriétaires, seuls ceux qui ont un intérêt ou une capacité économique suffisante pour payer une certaine quantité d'impôts, sont dignes d'être électeurs. Ce sont des citoyens actifs par opposition à des citoyens passifs. Ils sont passifs, ils sont citoyens, ils ont des droits, mais ils ne sont pas électeurs. La minorité défend une autre idée en disant, mais des gens qui n'ont rien à perdre, ces citoyens passifs, et c'est Robespierre qui dit ça, que ce langage est faux. Que ce langage est faux. Parce que les pauvres habits qui me recouvrent, mon humble chaumière, ça s'appelle peut-être rien pour l'aristocratie. Mais c'est quelque chose pour moi, c'est quelque chose pour l'humanité. Et lui, il défend l'idée que tout citoyen, passif ou actif, ont quelque chose à perdre dans la société, et c'est l'idée du suffrage universel qui est enclenchée. Un autre député, Camille Desmoulins, dira « Avec votre système, Jean-Jacques Rousseau n'aurait pas été électeur. » Donc, un débat qui est vite remporté par la majorité qui défend donc l'idée d'une nation censitaire, référence au sens électoral, c'est-à-dire cette capacité que donne le paiement d'un impôt pour pouvoir voter. En attendant, le débat a eu lieu, en attendant, dans la construction de cette constitution, qui sera celle d'une monarchie parlementaire, est intervenue la question de savoir ce qu'est une nation. Ce qui signifie que dans cette Révolution française, qui va avoir, je vous l'ai dit, une visibilité très importante, il y a une concomitance, une mise en phase de deux grandes problématiques essentielles de l'histoire contemporaine. Le système politique, le constitutionnalisme, et la lutte contre la tyrannie, parce qu'au fond, la Constitution s'est inventée pour lutter contre les tyrans. Et qu'est-ce qu'une nation ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on appelle citoyen ? Quels sont ceux qui, véritablement, sont des acteurs politiques dans une société ? On a un foyer extrêmement important qui va, je dirais, prendre son ampleur naturelle dans la mesure où très vite, et je passe évidemment sur beaucoup de détails, la Révolution française sera confrontée à la guerre européenne. Alors, c'est la France qui va déclarer la guerre à l'Europe en 1792, dans un contexte qui est particulier. On peut dire en schématiquement que il y a une chose à constater en Europe, c'est que ce continent est tout petit. C'est 7% des terres émergées. Si vous retournez une carte de géographie, planisphère, là vous voyez que l'Europe, c'est une sorte de petite queue d'un grand ensemble, qui est l'Eurasie là, ou l'Asie. C'est tout petit. Ce sont des puissances qui sont considérables à la fin du XVIIIe siècle pour un certain nombre d'entre elles. Et ce sont des plaques tectoniques qui n'ont jamais cessé de frotter les unes contre les autres. Depuis 100 ans, on réfléchit à savoir comment ne pas faire la guerre en Europe. Ce sont des plaques tectoniques qui sont d'autant plus agitées à la fin du XVIIIe siècle qu'elles concernent des voisinages que je qualifie d'impossibles. Parce qu'à un moment donné, la démarche révolutionnaire inquiète tellement les autres souverains d'Europe, qui sont à quelques centaines de kilomètres de là, que les tensions ne peuvent que croître. Et pour différentes raisons sur lesquelles je n'insiste pas ici beaucoup, la Révolution française va prendre l'initiative de la guerre. Pour des raisons politiques, parce qu'une partie de la nouvelle Assemblée le veut, pour des raisons stratégique dans le chef de Louis XVI, c'est étonnant, mais Louis XVI va être un partisan de la guerre en ayant un double jeu s'il espère que la Révolution va perdre, ce qui lui permettra de récupérer son trône et ses privilèges, et aussi pour obéir à une logique révolutionnaire qui est de plus en plus de dire nous allons être attaqués, alors prenons les devants. Prenons les devants et allons libérer des peuples voisins pour créer des républiques sœurs, pour créer des alliés. C'est la maxime, au fond, de Machiavel. Quand une guerre est inévitable, la retarder renforce l'adversaire. Donc, la Révolution prend l'initiative de la guerre. Très peu sont contre, mais il y en a, dont de prestigieux personnages alors, comme Robespierre, qui a pris une amplitude importante, qui expliquera, écoutez, si nous perdons la guerre, nous perdons tout. Si nous gagnons la guerre, eh bien, le vainqueur ne viendra pas déposer ses lauriers au pied de l'Assemblée, mais risque de prendre le pouvoir. Et d'une certaine manière, il y a là, en prévision, en intuition, en tout cas, le parcours de Bonaparte. En attendant, la Révolution va remporter des victoires, finir, en tout cas remporter un certain nombre de victoires, notamment chez nous, notamment ici, hein, je map n'est pas loin, en novembre 1792. Et donc, une partie du scénario révolutionnaire se produit. Une partie du scénario révolutionnaire se produit, l'exportation de la Révolution. Avec, si je puis dire, des scénarios moins attendus, comme disait Robespierre, personne n'aime les missionnaires armés. Et donc, les populations n'accueillent pas nécessairement de la même manière et avec le même enthousiasme les percées de la Révolution française. D'autant qu'en quelques mois, la thématique va évoluer vers l'idée non pas seulement de créer des républiques sœurs, où on pourrait exporter les constitutionnalismes, mais aussi de revendiquer des espaces naturels, en particulier la rive gauche du Rhin, comme étant frontière naturelle de la France. Et donc, ça introduit une sorte de confusion qui se nourrit d'elle-même entre une thématique territoriale, d'espace territorial, et donc une thématique de conquête, avec un argumentaire, les frontières naturelles, et une thématique politique, juridique. Nous venons vers vous, nous exportons les principes de la liberté pour libérer les peuples. Il y a donc deux champs en réalité, deux champs de perception qui se confondent. Et si je souligne cela, parce que je suis obligé d'aller vite dans, l'évolution de ma réflexion, c'est parce que ce phénomène va prendre une très très grande ampleur quelques années plus tard, lorsque la révolution, après une série d'avatars, a muté, et lorsque Bonaparte est venu au pouvoir, après son coup d'État de 1799, en cessant d'être un jeune général de la République pour devenir un premier consul, avec l'ambition d'arrêter la révolution est finie, c'est ce qu'il dit, tout en étant lui-même un fils de la révolution, de facto, et lorsqu'il devient empereur, c'est la première fois qu'un empereur de cette nature règne sans venir d'une famille, d'une dynastie. Et il devient empereur, d'ailleurs, pour établir une dynastie. Donc, je n'insisterai pas beaucoup sur la figure de Napoléon, qui est passionnante, sur l'épopée napoléonienne, qui est passionnante, parce qu'il est à la fois le continuateur de la Révolution et puis celui qui va en interrompre une série de logiques. En attendant, l'Europe napoléonienne qui va se constituer, après une série de victoires militaires, donnant naissance à un espace européen considérable dont le pic est atteint vers 1810, cette Europe napoléonienne, si je puis dire, va être confrontée à l'administration française, de facto, et va découvrir les nouveaux, ou le nouveau régime, les nouveaux principes constitutionnels. Mais pas seulement, ces nouveaux espaces vont découvrir la rhétorique de la Révolution qui n'a jamais été complètement abolie par Napoléon. Lorsqu'il interdit un certain nombre de journaux, qui est l'atteinte la plus visible à la liberté de la presse, c'est au nom de la liberté qu'il le fait. C'est au nom de la liberté des Français, pour que les Français ne soient pas abusés par les mensonges et par des rhétoriques et par des discours qui les tromperaient. Donc, la rhétorique révolutionnaire suit sa vie normale, quelle que soit, enfin, sa vie normale, elle suit son cours, quelle que soit, si je puis dire, les évolutions politiques. Et c'est ici que ça devient extrêmement intéressant et important pour comprendre le XIXe siècle et ce que les révolutions nous laissent ou ont laissé comme problématique, puisque c'est ça le sujet. Pour le comprendre, nous devons aller en 1806. Lorsque Fichte, l'auteur allemand, va faire ses discours à la nation allemande, Berlin est occupé par les Français. Et les discours à la nation allemande de Fichte, qui était un universitaire, un philosophe, sont une manifestation de l'idée nationale, de la liberté des Allemands. Il parle aux Allemands, pour les Allemands et rien qu'aux Allemands. Et il y a un extraordinaire réinvestissement du discours révolutionnaire, mais cette fois-ci tourné contre un occupant qui est l'occupant français, se prétendant le diffuseur des idées révolutionnaires aussi. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que dans ce moment particulier de l'histoire de l'Europe, on verra, je dirais, se développer deux origines de ce que nous appelons la nation et qui nous interpelle évidemment jusqu'à aujourd'hui, parce que quand on parle de nation, je vous l'ai dit, au fond, on en vient à parler d'identité et d'identité nationale. Il y a ce foyer de la Révolution de 1789 où, au fond, la nation a une forme juridique. Est membre d'une nation celui qui est désigné comme tel par le législateur, donc par la loi, est membre d'une nation celui qui adhère à la Constitution et à la loi. C'est pourquoi les nobles qui vont émigrer, les membres du clergé qui vont émigrer, vont perdre leur nationalité. Donc nous avons une première définition, une première approche. Mais il y a un deuxième héritage qui, justement, prend corps dans cette Allemagne sous occupation, et on pourrait trouver peut-être d'autres lieux que l'Allemagne, mais c'est très visible sous l'occupation française. C'est une nation revendiquée plutôt comme ayant pour fondement le Volksgeist, l'âme du peuple. Les constituants de la nation sont alors une histoire commune, ancestrale, mythique, des mythes communs, des mœurs, des habitudes, des coutumes communes, une langue commune, une religion commune. Un faisceau donc de référence beaucoup plus empirique que la simple définition juridique, un faisceau de référence qui a tout à fait sa cohérence. Le Volksgeist, l'âme du peuple, en plus, dans ce climat romantique, de l'époque romantique, on est vraiment entre le 18e et le 19e, le climat romantique, la culture romantique va renforcer cette perspective. On a donc la naissance d'une idée nationale qui repose sur d'autres fondements que celle de la Révolution française, mais sur la même rhétorique. Et c'est ça qui rend évidemment toute sa complexité à la question nationale. Non seulement la question nationale, ce que nous appelons une nation, possède au moins deux définitions et deux héritages différents, mais les rhétoriques qui les ont fondées sont très proches les unes des autres. Et les choses ne feront que s'accentuer au XIXe siècle. Alors, après la chute de Napoléon en 1814, après l'effondrement de l'Empire napoléonien, c'est une véritable page de l'histoire qui se tourne. J'ai envie de dire, pour rester dans ma logique du début, c'est parce que Napoléon a fait chuter les Bourbons d'Espagne que les Libertadores d'Amérique latine ont pu finir par vaincre les Espagnols en Amérique et fonder les différents États constitutionnels que nous connaissons, comme l'Argentine, le Pérou, le Chili, etc. Une véritable page se tourne en 1814 et elle est illustrée par un événement considérable. C'est peut-être l'événement le plus important du XIXe siècle, puisqu'on parle du XIXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est le Congrès de Vienne de 1814-1815. Le Congrès de Vienne de 1814-1815 est le plus grand rassemblement diplomatique de toute l'histoire jusque-là. Il n'y a jamais eu autant de têtes couronnées, de princes, de diplomates concentrés ensemble en même temps. Alors, ça dure des mois, le Congrès de Vienne. Ils font plusieurs choses. Ils célèbrent la victoire sur Napoléon. Ça veut dire vraiment la célébrer, des banquets, des bals, des repas, des fêtes. Vienne n'est qu'une fête. Et ils fondent la Nouvelle Europe. Avec une idée maîtresse, c'est terminé. On n'en veut plus. On ne veut plus 20 ans de guerre révolutionnaire et impériale. On ne veut plus ça. On ne veut plus cette expérience-là en Europe. Donc, il faut ramener la France à ses frontières de 1789, solidifier la monarchie des Bourbons avec Louis XVIII. Et donc, la France, elle est invitée au Congrès de Vienne via Talleyrand. Et puis, surtout, il faut mettre en œuvre une théorie qui date du XVIIIe siècle, même peut-être avant, c'est la théorie de l'équilibre européen. La théorie de l'équilibre européen. Puisque sur ce continent, on n'arrive pas à ne pas se faire la guerre, il faut arriver à un modèle où les grandes puissances trouvent leur compte en matière de revendications territoriales, en matière de géopolitique. Et s'il faut sacrifier les petites puissances pour arriver à cet équilibre, on les sacrifie. On ne leur demande pas leur avis, en tout cas. Alors, qui dit ça? Les vainqueurs de Napoléon. La Russie, l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre. La France, elle est un petit peu l'outsider bizarre. Alors, ce serait une erreur fondamentale de croire que le Congrès de Vienne a inventé l'idée européenne qui est la nôtre aujourd'hui. Je dirais même que notre union est l'antithèse de cette conception d'équilibre européen. puisque l'Union européenne est le seul empire de l'histoire qui se soit agrandi par adhésion. Et on frappe même à la porte. La plupart, tous les empires s'agrandissent par conquête. L'équilibre européen, c'est le contraire de l'Union, puisque les petites nations sont aux mains des grandes, en réalité. C'est pourquoi nous nous retrouvons, nous, ici, en Belgique, amalgamés avec la Hollande, avec les Pays-Bas. La Belgique hollandaise est un fruit direct du Congrès de Vienne et de cette logique d'équilibre européen. Alors, réorganisation de l'Europe aux dépens d'un certain nombre de peuples qui s'étaient nourris des idées de nationalité, de liberté, de libéralisme, et qui se retrouvent confrontés non plus à l'occupation française ou à l'influence française, mais à des souverains qui veulent restaurer l'ancien régime, et c'est d'ailleurs le nom, c'est la restauration, et qui plus est, veulent anéantir le travail de la Révolution française et de ses fruits. Alors, commencera après le congrès de Vienne, je dirais, un processus de règlement politique qui nous est assez familier, en fait. C'est l'organisation de congrès internationaux. Parce qu'il y a eu le congrès de Vienne, mais pratiquement chaque année, il y a un congrès. Avec Aix-la-Chapelle, que sais-je encore. Et on verra le début du principe d'intervention militaire, notamment à partir des années 1818, 1819, 1820, pour neutraliser des foyers insurrectionnels libéraux qui critiquent et ne veulent pas de la restauration de l'ancien régime. Un bel exemple, c'est l'intervention française en Espagne dans les années 1818, 100 000 soldats français, avec l'aval, je dirais, des congrès européens qui vont aller mater des mouvements d'insurrection libéraux espagnols. Idem en Autriche contre des patriotes italiens, notamment à Turin et dans certaines villes du Nord, des villes qui deviendront des bastions de ce qu'on appellera le Risorgimento, et plus tard la fondation de l'Italie moderne. Donc, c'est le début de ce que, c'est la suite de l'ère des révolutions, avec des séquençages, 1830, 1848. Je ne peux pas insister là non plus dans les détails, sinon que ces séquençages de révolution jusqu'en 1848, c'est vraiment l'affrontement d'un héritage de proximité dans le temps, l'héritage libéral, qui se revendique du XVIIIe siècle, qui est constitutionnaliste, et alors la tradition, le traditionnalisme de la Restauration, qui veut gommer à tout jamais les années 89-1814, et qui a pour héritage alors des périodes beaucoup plus lointaines, beaucoup plus nourries par l'histoire, par le passé, sachant qu'une forme de durée donne de la légitimité. Ils sont confortés dans leur certitude que la révolution ou l'ère des révolutions, ça n'est jamais qu'une parenthèse de l'histoire, qu'il faudra bien fermer un jour, et que le vrai continuum de l'histoire, c'est la légitimité des souverains, c'est la religion, c'est la considération des peuples comme étant constitués de sujets et non de citoyens. Cette continuité-là, toute l'histoire la donne. Et ce n'est pas parce qu'il y a des séquences révolutionnaires, qu'il y a des accidents révolutionnaires, qu'il faut modifier, je dirais, ce qu'est la légitimité d'un pouvoir. Donc un affrontement qui dure jusqu'en 1848, c'est assez répétitif. Ce sont des foyers avec plus ou moins de succès. Avec plus ou moins de succès et avec des cas inattendus, comme le cas grec. L'indépendance de la Grèce finit par aboutir après moult aléas en 1830. Le paradoxe, c'est que cette indépendance nationale, qui est un des premiers mouvements patriotiques, soutenu par ce que l'on pourrait qualifier une campagne médiatique internationale, avec des comités à Londres, en France, avec des artistes, des peintres, des écrivains qui vont partir, d'ailleurs certains mourir là-bas, comme Byron. Donc des vraies campagnes médiatiques pour soutenir les Grecs, qui sont donc soumis aux Ottomans. Le paradoxe de l'indépendance grecque, c'est qu'un des plus grands soutiens grecs, c'est le tsar Alexandre. C'est le tsar pour affaiblir l'Empire ottoman, pour des raisons stratégiques. Et donc on va aussi trouver des cas de figure où la logique de l'équilibre européen, la logique de la restauration, eh bien, elle s'offre des aménagements, si je puis dire, car comme autocrate, en la matière, le tsar de Russie, je dirais, était un des plus perfectionnistes pour défendre l'idée de restauration, et non pas pour soutenir les libéraux grecs fondant leur patrie. Une autre révolution, celle de la nôtre, la révolution belge de 1830, qui est une révolution libérale qui réussit, c'est la première à réussir de cette manière. Je dirais que les Belges ont manœuvré de manière extrêmement habile. D'abord, en contrôlant les événements de la rue en août-septembre. Ensuite, en se dotant d'un congrès national élu, je dirais, par un peu plus de 46 000 électeurs, donc très peu d'électeurs, qui vont élire les 200 députés catholiques et libéraux chargés de rédiger la Constitution belge. Ils vont très vite renoncer à la réunion à la France, très vite renoncer à la République, au profit d'une monarchie. Ils vont très vite se donner un Sénat, ce qui fait que chaque fois, ils vont donner des gages à l'Europe qui les observe, parce que la révolution belge, c'est vraiment, je dirais, ce qui n'était pas attendu dans le paysage européen. Et depuis la conférence de Londres, qui est une sorte de mini-congrès de Vienne, les puissances européennes sont sur les dents. La question belge peut entraîner une guerre continentale. Et donc, les Belges le savent. Et c'est en manœuvrant de manière extrêmement sensible qu'ils vont arriver à ne pas créer l'effet de domino conduisant à une guerre européenne. Avec l'argument, la subtilité magnifique, si je puis dire, en termes politiques, c'est qu'au fond, si la Belgique inscrit sa neutralité dans sa constitution, rien ne change dans l'équilibre européen. Les Belges ont été rattachés aux Hollandais pour former un État tampon. Bien. Mais si les Belges restent un tampon en étant indépendants, après tout, pourquoi pas? Et si la Belgique est neutre et une neutralité armée, c'est-à-dire si elle est capable de se défendre, elle doit le démontrer, si sa neutralité est garantie par toutes les puissances, c'est-à-dire la Russie, la Prusse, la France et l'Angleterre, rien ne change, sauf évidemment pour Guillaume d'Orange, bon. Mais à part ça, l'équilibre européen est sauvegardé. Et donc, l'indépendance de la Belgique finit par être reconnue internationalement. C'est pour ça que c'est une des victoires libérales de ce processus jusqu'en 1848. C'est une des épines dans la logique du Congrès de Vienne, une grosse épine, sinon que l'équilibre reste préservé. Et il sera solide pendant le XIXe siècle, puisque la guerre franco-allemande de 1870 ne va pas déborder sur nos frontières, et qu'apparemment, les traités de ces années 1830 sont solides. Ils seront solides, vous le savez, jusqu'en 1914. Là, ce n'est plus, au fond, le XIXe siècle. Alors, dans ces années, dans cette ère de révolution de 1830-1848, nous avons des traditions qui s'opposent. Et plus le temps passe dans ce XIXe siècle, plus les événements qui ont lieu ont leur spécificité, Mais plus cette tradition s'étoffe également. Elle s'étoffe de références au passé, elle s'étoffe d'héritage, et les mouvements libéraux prennent une certaine maturité, tirent des enseignements, ce qui signifie qu'on a les deux grands courants du XIXe siècle sont de plus en plus matures pour continuer leur affrontement, le courant libéral et le courant traditionnaliste. Ces deux grands courants qui vont drainer tout le XIXe siècle, et même au-delà, vont produire un discours idéologique extrêmement puissant, très puissant. Le XIXe siècle est un vrai siècle idéologique. Ça veut dire que, d'une manière qu'on ne s'imagine peut-être plus aujourd'hui, la politique a investi tous les domaines de la vie. Même dans des pays, entre guillemets, pacifiques comme la Belgique, si on fait référence aux conflits entre cléricaux et anticléricaux du XIXe siècle, ils sont d'une vraie virulence politique, journalistique, etc. Mais ils ont des impacts dans la vie quotidienne des individus. Pour les plus jeunes, dans les années 1880, si on allait faire de la musique dans un orchestre local, c'était un orchestre catholique ou un orchestre libéral. Si on allait dans une association, un club sportif, que sais-je, ils étaient connotés. Les trois grands moments de vie étaient source de polémiques. La naissance, avec la question du baptême ou du non-baptême, le mariage, la mort. On se battait, se disputait sur la question des enterrements, des cérémonies, etc. Donc, les grands moments, les moments forts de l'existence étaient empêtrés, empêtrés n'est pas un bon mot, étaient concernés jusqu'au sein des familles par cette puissance idéologique. Alors, mis à l'échelle, je dirais plus globale, les enjeux idéologiques se répercutaient sur des questions sociales, sur des enjeux internationaux. Le pape occupait une posture extrêmement importante dans ce débat, et des répercussions dans d'autres domaines se faisaient sentir, parce que le XIXe siècle, évidemment, je n'en ai pas encore parlé, mais je ne sais pas parler du tout, c'est le siècle de l'une des trois grandes révolutions de l'histoire, en tout cas pour nous, c'est la révolution industrielle. La première grande révolution, c'est la révolution agricole du Moyen-Âge, en tournant de l'an 1000. La deuxième, c'est la révolution marchande, 15e, 16e siècle, les grandes découvertes. Les Européens vont en Amérique, ils vont partout, ils font le tour du monde, les navigateurs. Pas un peuple ne verra, tous les peuples du monde verront débarquer un beau jour des Européens, pour le meilleur, pour le pire. Mais pas un peuple du monde qui a échappé à la venue d'Européens. Troisième révolution, la révolution industrielle qui commence en Angleterre et qui se répand dans l'Europe du Nord-Ouest, en particulier chez nous. La révolution industrielle qui est couplée à l'évolution des progrès technologiques, des progrès scientifiques, où s'insinue également le débat idéologique, le débat philosophique, avec un point d'orgue que j'ai évoqué ici parce qu'il y a beaucoup d'autres thèmes, mais il est important pour la suite et fin de mon exposé, c'est le darwinisme. À partir des années 1860, l'interrogation biologique, l'interrogation sur les origines de l'homme, et tout ceci dans un climat où, justement, les deux grands courants idéologiques qui sont alors très puissants se posent aussi des questions sur les origines. Parce que l'idée des origines, c'est l'idée des fondations de quelque chose. Et la question du sang dans la famille, la question de la race, sont des questions qui sont d'autant plus au cœur de l'actualité de la deuxième moitié du XIXe siècle qu'il y a aussi les grandes campagnes de colonisation qui s'enclenchent. La colonisation commence avant, mais c'est dans la deuxième moitié du XIXe siècle que nous avons les grands empires coloniaux qui se fondent. Et ces questions des origines, des races, du sang ce sont des questions qu'on peut retrouver le dimanche en famille, comme au Parlement. C'est l'objet de débats qui traversent, je dirais, la société, les médias, et qui sont omniprésents en termes de caisses de résonance. Et c'est important pour comprendre la suite et fin de mon exposé. Je n'ai pas besoin d'insister beaucoup sur les querelles, les polémiques autour de Darwin, elles sont considérables. Dans les années 1860, l'homme a aussi fait partie d'un rameau animal comme les autres créatures, et donc il n'a pas été tout fait des mains de Dieu, c'est un choc considérable. Mais ce qui est, comment dirais-je, ce qui est évidemment important aussi, c'est que ce débat autour d'un Darwin biologiste, en somme, naturaliste, va assez vite, très vite même, glisser vers, au fond, un darwinisme social. Après tout, la sélection naturelle, ce n'est pas une si bête idée que ça, quelque part. Il y a qui est des vainqueurs et des vaincus, comme les guerres le montrent, qu'il y ait des exploités et des exploiteurs, qu'il y ait des pauvres et des riches, qu'il y ait des soumis et des dirigeants, au fond, c'est la loi de la nature. Et ce darwinisme social, qui évidemment doit être détaché objectivement du darwinisme de Darwin, va néanmoins se diffuser pendant la deuxième moitié du XIXe siècle à la faveur de l'expansion industrielle, à la faveur de l'expansion coloniale, et va venir télescoper la question de la nation. Alors, vous avez sans doute constaté, en tout cas, que je n'ai pas encore dit un seul mot, une seule fois un mot, qui est celui de socialisme. Et effectivement, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, le socialisme ou les socialismes vont, je dirais, se solidifier davantage, se densifier. La première internationale en 1864 est un moment extrêmement important, où les socialistes se comptent et se décomptent, si je puis dire. Bien sûr, il y a Marx et son manifeste de 1848, mais c'est la deuxième moitié du XIXe siècle qui voit l'influence de tradition socialiste prendre de plus en plus de place dans les débats idéologiques. Donc une troisième branche vient se mêler, si je puis dire, aux deux autres, avec des projets, avec des projections qui sont différentes, des tendances réformistes qui considèrent qu'il faut s'emparer de l'État bourgeois et s'emparer de son fonctionnement, et d'autres qu'il faut détruire l'État bourgeois. Ça, c'est le projet communiste, ce sera le projet marxiste, remettant à la surface à ce moment-là, donc dans les années 1870, 1880, 1890, un débat qu'un grand historien, Tocqueville, avait ouvert en regardant la Révolution, de nouveau, en la regardant. Là, on est dans la mémoire, on est dans l'historiographie. Et ce débat, les révolutionnaires français l'avaient eu, et c'était: il y a quand même un problème dans notre projet. Les hommes de 89 disaient déjà cela. Comment faire un pays, une nation, qui associe la liberté et l'égalité? Parce que la liberté et l'égalité sont antinomiques. Ou bien vous favorisez la liberté, ça va être aux dépens de l'égalité. Ou bien vous favorisez l'égalité, et ça va être aux dépens des libertés. Vous ne pouvez pas faire les deux. Tocqueville relance le débat dans les années 1850 et il dit très clairement, vous savez, nous avons une première vague de révolution, celle dont je viens de parler, l'ère des révolutions. On va en avoir une deuxième maintenant. Mais ce ne sera plus la liberté qui sera mise en relief, ce sera l'égalité. Et Tocqueville a des pages prophétiques sur la révolution bolchevique, qui est une révolution à l'antithèse de la révolution française. Ça ne s'inscrit pas du tout dans la continuité. S'il y a bien quelque chose qui est dénoncé par les révolutionnaires, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Même si dans l'imaginaire soviétique se retrouvent, je dirais, des figures de la Révolution française, Robespierre, Danton, Marat, etc. Il y a une posture dans la Révolution bolchevique qui exprime cette espèce d'antinomie entre la liberté et l'égalité que Tocqueville avait identifiée et que les hommes de 89 avaient identifié aussi. C'est pour ça que dans la triade révolutionnaire, il y a le mot fraternité. Le mot fraternité, il ne tombe pas de nulle part. Au départ, c'était liberté, égalité, la devise révolutionnaire. Et c'est de nouveau Robespierre qui dit on va mettre fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Alors qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? C'est le lien social. C'est ce qui peut relier la liberté et l'égalité. Autrement dit, c'est à un moment donné, à travers la fraternité, c'est-à-dire ce qui deviendra chez les socialistes le mot solidarité, la devise révolutionnaire va évoluer dans les mouvements ouvriers, c'est assez fascinant, liberté, égalité, solidarité. La solidarité, dirions-nous aujourd'hui, c'est l'idée qu'il y a un lien social qui peut se créer pour maintenir la liberté et l'égalité dans le corps social. Par la solidarité, donc par accepter d'abandonner un peu de sa liberté au sens économique du terme, c'est-à-dire à un moment donné, au fond, accepter qu'il y ait un interventionnisme social de l'État, il faudra du temps avant que ça se fasse, et puis accepter qu'il y ait une libre entreprise dans une société et qu'il n'y ait pas une égalité parfaite et qu'on ne coupe pas les têtes qui dépassent. Le mot fraternité, ce n'est que ça. Donc, tout ça donc pour injecter dans ma réflexion ce courant socialiste qui, dans la deuxième moitié du 19e siècle, va occuper la place comme les deux autres, mais bon, avec sa jeunesse, j'ai envie de dire. En attendant, pour aller donc vers la fin de mon exposé, on en était resté au darwinisme, on en était resté à l'ère des révolutions jusqu'en 1848, et jusqu'en 1848, jusqu'à la moitié du 19e siècle, il y a un couple qui reste, qui perdure, c'est la liberté et la nation. La nation est émancipatrice. Elle est associée à toutes les aventures de la liberté, quand il s'agit de dénoncer lors du congrès de Vienne, par exemple. Donc tout son imaginaire renvoie aussi à cet imaginaire et à cette définition que donnaient les patriotes de l'an 2 en allant au combat et en criant « Vive la nation !» Ces sans-culottes de la Révolution. Et puis les choses vont changer à la fin du 19e siècle. Alors, il y a toute une série d'explications, en tout cas, tout un contexte qui évolue. Peut-être que la première crise du monde industriel dans les années 1880-90, la première crise du capitalisme tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui, se produit. C'est une vraie crise systémique, mais qui ne va pas détruire le système. En 1910, il repart. En tout cas, l'idée de nation va s'imbiber, s'intégrer, ou intégrer une série de considérations d'ordre racial de manière beaucoup plus vigoureuse que dans la première moitié du 19e siècle. Le temps des nationalismes qui apparaît à la fin du 19e est un temps alors qui fait l'évocation non pas d'une nouvelle définition de la nation mais qui réinvestit un matériau, un héritage, le double héritage dont je vous ai parlé, qui est à disposition. Il est à disposition. Alors il y a eu des expériences, il y a eu bien sûr la fondation de l'Allemagne en 1871 avec la défaite française. C'est la première grande guerre en Europe depuis les guerres napoléoniennes, sinon qu'en Italie pour le Risorgimento il y a eu de fameuses batailles également. Mais on sent très bien que l'idée nationale absorbe la question des races, absorbe la question de la pureté du sang, absorbe la question du darwinisme social, et que la rivalité internationale se nourrit d'une vision qui éloigne l'idée de nation de ce qu'on pourrait qualifier de libéralisme progressiste, tel qu'elle était exprimée dans la première moitié du XIXe siècle. Il y a un temps de dureté qui commence. C'est pour ça que Mme Stacke n'aime pas le XIXe siècle. Ça devient un siècle de fer. Enfin, socialement, ça l'était dans cette région. Dans le Hainaut, je n'ai pas besoin de... D'ailleurs, Liège non plus, évidemment, pas besoin d'insister trop là-dessus. C'est un siècle très rude. C'est un siècle de machines. Les machines, c'est froid. Mais ça produit du confort. Ça produit une société aussi de consommation, qui est encore la nôtre aujourd'hui. Mais au tournant des années 1870-70, il y a des événements qui se produisent qui n'ont pas nécessairement de lien entre eux. La guerre de sécession annonce une nouvelle manière de faire la guerre, comme celle de 1870, quelques années plus tard, avec l'utilisation de moyens meurtriers beaucoup plus puissants, l'utilisation de tranchées, de sous-marins, pour ce qui est de la guerre de sécession, de mitrailleuses, de canons plus puissants. Au même moment qu'a lieu la guerre de sécession, il y a une guerre qui a lieu en Amérique latine, c'est la guerre du Paraguay, oubliée de tout le monde, qui est une guerre, le Paraguay contre l'Argentine, l'Uruguay et le Brésil, et plus d'un tiers de la population paraguayenne a disparu dans cette guerre. Donc c'est une guerre qui a conduit une partie de la population d'un pays à s'éteindre. Au point que l'impact démographique sur le Paraguay a été senti pendant des décennies et des décennies au XXe siècle également. Et au même moment, en Chine, ont lieu des famines considérables, mais surtout des révolutions ou de véritables petits royaumes révolutionnaires sont fondés au cœur de l'Empire Mandchou et qui génèrent des violences politiques faisant des millions de morts, des violences militaires et guerrières. Donc il y a des épisodes dans ces années 1860 qui marquent, qui annoncent déjà, au fond, une forme de brutalisation dans la manière de conduire les conflits. Alors, j'arrive tout doucement à la fin de mon exposé maintenant, et même j'y arrive. Donc, ce que j'ai voulu faire avec vous en évoquant l'ère des révolutions et les révolutions sur la longue durée, au fond, c'est évoquer comment, puisque c'est tout un cycle sous le 19e siècle, comment on bascule effectivement dans une époque nouvelle au début du 19e siècle. Ça prend une transition d'une soixantaine d'années, et comment cette époque est le creuset de concepts fondamentaux en termes d'organisation des sociétés, et comment ils vont évoluer à travers le temps. À travers le temps, en se nourrissant des héritages d'où ils viennent, et c'est ce qui rend encore certaines questions aujourd'hui complexes et difficiles à résoudre. C'est ce qui rend si difficile de trouver une définition de la nation, de trouver une définition de l'identité nationale, et même de trouver une définition de la révolution. Parce que justement, les générations du passé se sont chargées, par leurs héritages respectifs, de rendre complexe, de nous poser le problème de manière compliquée, aujourd'hui encore. Je vous remercie.
Je remercie Philippe Rapson pour cette belle introduction au siècle et je vous propose tout de suite d'intervenir, que ce soit par des questions ou des commentaires.
Merci Anne. Merci Philippe, surtout pour cette belle et brillante conférence, tellement riche, hein, qui revisite le concept de révolution, ses fondements, celui de la nation, l'importance du congrès de Vienne, avec la mise en place de cet équilibre, de cet ordre européen, le poids de l'idéologie, et puis cette contraction sur la fin de siècle. Je pense que c'est vraiment précieux et qu'on peut certainement faire beaucoup de miel de toutes ces fleurs et de merci. Tout ce qui a été donné. J'ai été accroché, c'est par la question de la légitimité qui est vraiment importante. La Révolution française, au fond, et tu l'as rappelé, ben, elle fait émerger le tiers dans une société où les classes sociales ont leur propre légitimité, mais où la bourgeoisie ne l'a pas encore. C'est resté très clair dans mon esprit pendant longtemps, c'est que finalement la Révolution française donne cette légitimité. Tu as rappelé le rôle du roi après le serment du jeu de paume, en n'intervenant pas, ben, il est fondateur de cette légitimité. Le suffrage censitaire, ben, il donne un statut à cette bourgeoisie qui peut émerger. Et pourtant, si je ne me trompe pas, François Furet dit que la légitimité, la bourgeoisie ne l'obtient vraiment jamais. Et qu'elle court après cette légitimité pendant tout le XIXe siècle. Et que finalement, sa seule reconnaissance est d'ordre économique. Est-ce que dans la lecture que tu as de la Révolution française, tu partages cette idée-là ou bien... Est-ce qu'elle fonde ou est-ce qu'elle ne fonde pas une légitimité à la bourgeoisie ?
Alors, moi je dirais qu'elle la fonde dans la mesure où un des grands objectifs de la bourgeoisie française, c'était aussi de pouvoir faire carrière dans des registres inaccessibles, quel que soit l'argent dont on disposait. Occuper certaines fonctions à l'armée, certaines fonctions dans la justice, certaines fonctions... dans l'administration était impossible si l'on n'avait pas un certain nombre de quartiers de noblesse. Et c'est ça le paradoxe de la société française à la fin du XVIIIe siècle, c'est que il y a un groupe social qui est apte à tout point de vue à diriger ou à gravir les échelons du pouvoir. La société anglaise a été beaucoup plus poreuse entre aristocratie et bourgeoisie. Et ça s'est ressenti aussi, cette porosité-là, dans l'adoption de la révolution industrielle. L'aristocratie française est restée très fermée à la révolution industrielle. C'était un phénomène lointain, restée très terrienne. Donc, la bourgeoisie française a conquis cette légitimité-là dans le fonctionnement de la société. Alors, le terrain économique, bien sûr, avec toutes les interactions sociologiques qui sont possibles. À partir du moment où, vers 1820, 1830, des bourgeois, de grands bourgeois et de grands aristocrates marient leurs enfants entre eux, c'est qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. À partir du moment où on assiste à un phénomène extraordinaire, là, il faut que je fasse deux minutes, mais je vais faire vite. Il se passe quelque chose, donc, aussi, quand on constate un phénomène extraordinaire. Ce qu'on appelle la richesse, ça n'est pas seulement ce que vaut quelque chose, c'est ce que procure comme effet quelque chose. Pendant très longtemps, c'est la terre, la richesse. Donc c'est la richesse parce que la terre produit, mais c'est aussi, elle produit des denrées, mais c'est aussi, elle produit aussi une satisfaction. C'est-à-dire la satisfaction du pouvoir, quelque chose. Avoir des terres, de grandes terres, est une source de satisfaction en soi. Au-delà même du fait que la terre produit des richesses comestibles. Alors, pendant très longtemps, même quand la révolution industrielle gagne du terrain, donc la richesse de référence reste la terre. Qu'est-ce que ça veut dire aussi ? Ça veut dire que ceux qui... des capitaines d'industrie qui gagnent, qui ont pris des risques, auront tendance à réinvestir dans la terre. et pas dans l'entreprise. La terre conservant encore cette espèce de potentiel ancestral de source de richesse, dans les deux sens du terme. Et puis dans les années 1850, ça change. Ça change, c'est la machine industrielle qui devient l'image de la richesse. Et donc, on va avoir alors la tendance d'investir dans l'industrie les gains qu'on a faits plutôt que dans les terres. La terre va perdre son statut de représentation de la richesse au profit de ce que peut exprimer la possession d'une industrie, d'être le patron de plusieurs entreprises, d'être à la tête d'un monopole. Ça produit de la richesse, comme la terre en produisait, et ça produit la sensation de la richesse, ce qui est encore différent. Et alors, la troisième étape sera le monde banquier qui existe dès la révolution industrielle, parce que c'est impossible que les deux soient séparés, mais où investir son argent dans des produits bancaires deviendra un signe de richesse. Être détenteur d'actions, c'est ça qui va donner la sensation de la richesse. Donc, c'est par ce canal-là, qui est économique, mais qui est aussi sociologique, que la bourgeoisie, à mon avis, s'impose, et qu'elle finit par acculer la noblesse. La noblesse n'a cessé d'être acculée par le libéralisme. Un des coups mortels contre la noblesse, c'est le jour où il a fallu donner un salaire aux domestiques. Tuer la domesticité. Tout ce système qui consistait tout simplement à cette sorte de win-win où le domestique vivait là, chez de bonnes familles. Il y a des bourgeois aussi qui en avaient. Mais enfin, la domesticité, c'est plutôt une tradition aristocratique. En échange du gîte, du couvert, etc., de certaines règles à respecter, un salaire tue ça, évidemment. Et donc, le principe de donner un salaire à tout le monde, c'est un principe libéral, c'est un principe bourgeois. Voilà. Donc, la bourgeoisie a détruit l'aristocratie ou l'a mangée.
D'autres questions ?
Si j'ai plutôt une réflexion en vous entendant parler de l'impôt payé par les pauvres et pas par l'Église, pas par les aristocrates. Alors, je fais la comparaison avec la Grèce maintenant au bord du gouffre parce que ni l'Église ni les armateurs grecs ne paient d'impôts.
Alors, bon. Je ne connais pas assez la situation grecque pour vous dire si l'Église grecque, effectivement, comme je l'ai entendu, ne payait pas d'impôts. Parce que j'ai entendu des échos contraires. Donc, je ne vais pas entrer dans cette question grecque que je ne connais pas assez, mais je relève que, évidemment, voilà, dès qu'on parle de révolution, on ne sait pas éviter les comparaisons. C'est un... Alors, je n'ai même pas cité Printemps des... Si, je crois que je l'ai cité, Printemps des Peuples, parce que je me suis dit que ça allait, évidemment, faire penser à l'actualité. Dès qu'on aborde la révolution, il est impossible de se dégager de son présent. Je vous remercie d'illustrer cela, même si, malheureusement, je ne sais pas répondre à votre question.
Merci. Merci, professeur, pour votre brillant exposé. Il faut continuer la révolution. Et je crois que vous indiquez la fin de la révolution, mais la révolution continue avec les mouvements de libération contre le colonialisme. Et au moment où il y avait les deux grands blocs antagonistes, d'un côté le bloc soviétique, de l'autre le bloc impérialiste américain. Et bon, ça, c'est, il faut aussi là parler de révolution au nom, justement, de principes d'autonomie, de liberté, etc., et de dignité pour les peuples. Puis, maintenant, et je rejoins un peu la dame qui s'est exprimée avant moi, maintenant, il y a des germes de révolution. D'une part, une révolution commandée par la religion, par l'esprit intégriste, et qui, elle, condamne tous les principes de la révolution française, et d'autre part, les germes qui résulte de la crise, qui résulte de l'inégalité qui est faite aux peuples, que doivent subir les peuples, et on a cité de la Grèce, enfin, on connaît les pays qui sont en difficulté maintenant. Donc il y a là des germes, mais d'un autre côté, le danger révolutionnaire n'est peut-être pas dans le prolongement des idéaux de la Révolution française, mais une révolution tout à fait dévoyée. Et alors, tous ces printemps arabes et ainsi de suite, il y a quand même des questions à se poser.
Alors, bon, je ne suis pas allé dans le XXe siècle beaucoup, parce que, comme c'est le XIXe, Mme Staquet m'a tout de suite dit de mettre des limites, sinon je veux bien y aller. Mais maintenant, vous me faites penser, effectivement, que la notion de révolution conservatrice est quelque chose qui existe. Donc c'est encore une complexité de plus à ce concept de révolution. C'est-à-dire la révolution qui amène un changement, mais soit pour restaurer des valeurs, soit pour les conserver. Un bel exemple, c'est la révolution Barbançonne, pour rester un peu chez nous quand même, qui est dans les années 87-89, est une révolution conservatrice contre les idéaux de Joseph II, maladroitement sans doute exportés, mais qui sont des principes des Lumières, avec l'idée de rationaliser l'administration, la justice, toute une série de privilèges locaux sont touchés. Et la révolution Barbançonne est une révolution conservatrice, faite par des conservateurs et non par des progressistes. Et donc, on peut qualifier de révolution religieuse la révolution de Khomeini, parce que effectivement, elle inaugure un modèle en 1979 qui est extrêmement important. Une des clés de ce début de siècle, c'est la révolution iranienne. Et d'ailleurs, les plus jeunes ne sentiront pas ça, mais ceux qui ont au moins mon âge, enfin, en tout cas moi, j'étais en 79, j'étais encore enfant, mais je me souviens que Khomeini quittant la France, eh ben, c'était comme Saint-Nicolas qui allait rentrer, et le méchant chat était tombé, et ce vieillard avait l'air si pacifique, et voilà. Et puis alors, il s'est passé ça. Bon. La révolution conservatrice peut abuser, évidemment, ses observateurs. Ça, c'est très clair. C'est très clair. Et j'ajoute quand même, à votre intervention, à propos de la colonisation, l'ambiguïté de la révolution, elle est aussi dans le fait que un certain nombre de colonisateurs sont allés, notamment en Afrique, barder des idéaux des Lumières. Et soit par conviction, soit par manipulation, on fait usage de ce dispositif rhétorique et idéologique de la Révolution française ou du XVIIIe siècle pour justifier la colonisation. Ça aussi, c'est un élément de complexité de plus. L'héritage de cette révolution s'encombre d'éléments, au fur et à mesure. Celui-là en est un aussi. Et c'est difficile parce qu'en plus, quand vous voyez comment la France a vécu ses décolonisations, on va parler du cas belge, mais la décolonisation algérienne, qui est une tragédie, c'était aussi le pays des droits de l'homme, la France. Et ce qui est extraordinaire, par exemple, c'est qu'on a continué à chanter la Marseillaise en Algérie. On a continué à chanter la Marseillaise en Algérie. À la limite, on l'a peut-être même chanté contre les Français. Donc, c'est compliqué.
Si personne ne souhaite plus intervenir, je vais remercier encore une fois Philippe Raxon.